Chapitre 11. Du mélange de la religion avec la politique. On dit beaucoup que la France est devenue irreligieuse depuis la Révolution. Sans doute, à l'époque de tous les crimes, les hommes qui les commettaient devaient secouer le frein le plus sacré. Mais la disposition générale des esprits, maintenant, ne tient point à des causes funestes, heureusement très loin de nous. La religion en France, telle que les prêtres l'ont prêchée, a toujours été mêlée avec la politique. Et depuis le temps où les papes déliaient les sujets de leurs serments de fidélité envers les rois, jusqu'au dernier catéchisme sanctionné par la grande majorité du clergé français, catéchisme dans lequel, comme nous avons vu, ceux qui n'aimeraient pas et ne serviraient pas l'empereur Napoléon étaient menacés de la damnation éternelle, il n'est pas une époque où les interprètes de la religion ne s'en soient servis pour établir des dogmes politiques, tous différents suivant les circonstances. Au milieu de ces changements, la seule chose invariable a été l'intolérance envers tout ce qui n'était pas conforme à la doctrine dominante. Jamais la religion n'a été représentée seulement comme le culte le plus intime de l'âme, sans nul rapport avec les intérêts de ce monde. L'on encourt le reproche d'irreligion quand on n'est pas de l'avis des autorités ecclésiastiques sur les affaires de gouvernement. Mais tel homme s'irrite contre ceux qui veulent lui imposer leur manière de voir en politique, qui n'en est pas moins très bon chrétien. Il ne s'ensuit pas de ce que la France veut la liberté et l'égalité devant la loi qu'elle ne soit pas chrétienne. Tout au contraire, car le christianisme est éminemment d'accord avec cette opinion. Aussi, le jour où l'on cessera de réunir ce que Dieu a séparé, la religion et la politique, le clergé aura moins de crédit et de puissance, mais la nation sera sincèrement religieuse. Tout l'art des privilégiés des deux classes est d'établir que l'on est un factieux si l'on veut une constitution, et un incrédule si l'on redoute l'influence des prêtres dans les affaires de ce monde. Cette tactique est très connue, car elle n'est que renouvelée, aussi bien que tout le reste. Les sermons, en France comme en Angleterre, dans les temps de parti, ont souvent porté sur des questions politiques, et je crois qu'ils ont très mal édifié les personnes d'une opinion contraire qui les écoutaient. L'on a peu d'égard pour celui qui nous prêche le matin, s'il a fallu se disputer avec lui la veille. Et la religion souffre de la haine que les questions politiques inspirent contre les ecclésiastiques qui s'en mêlent. Il serait injuste de prétendre que la France est irreligieuse parce qu'elle n'applique pas toujours, au gré de quelques membres du clergé, le fameux texte que toute puissance vient de Dieu. Texte dont l'explication sincère est facile, mais qui a merveilleusement servi les traités que le clergé a faits avec tous les gouvernements, quand ils se sont appuyés sur le droit divin de la force. À cette occasion, je citerai quelques passages de l'instruction pastorale de Mgr l'évêque de Troyes, qui, dans le temps où il était aumônier de Bonaparte, a fait, à l'occasion du baptême du roi de Rome, un discours au moins aussi édifiant que celui dont nous allons nous occuper. Nous n'avons pas besoin de dire que cette instruction est de 1816. On peut reconnaître toujours en France la date d'un écrit par les opinions qu'il contient. Mgr l'évêque de Troyes dit, la France veut son roi, mais son roi légitime, parce que la légitimité est le premier trésor d'un peuple, et un bienfait d'autant plus inappréciable qu'il peut suppléer à tous les autres, et qu'aucun autre ne peut y suppléer. » Fin des guillemets. Arrêtons-nous un moment pour plaindre l'homme qui pense ainsi d'avoir servi si bien et si longtemps Napoléon. Quel effort! Quelle contrainte! Mais, au reste, l'évêque de Troyes ne fait rien de plus à cet égard que bien d'autres qui occupent encore des places. Il faut lui rendre au moins la justice qu'il ne provoque pas la proscription de ses compagnons de service auprès de Napoléon. C'est beaucoup. Je laisserai de côté le langage de flatterie de l'auteur du mandement, langage qu'on devrait d'autant moins se permettre envers la puissance qu'on la respecte davantage. Passons à quelque chose de moins bénin. Guillemets. La France veut son roi, mais, en le voulant, elle ne prétend pas qu'elle puisse en vouloir un autre. Et heureusement qu'elle n'a pas ce droit funeste. Loin de nous cette pensée que les rois tiennent des peuples leur autorité, et que la faculté qu'ils peuvent avoir eue de les choisir emporte celle de les révoquer. Non, il n'est pas vrai que le peuple soit souverain, ni que les rois soient ses mandataires. C'est le cri des séditieux, c'est le rêve des indépendants, c'est la chimère immonde de la turbulente démagogie. C'est le mensonge le plus cruel qu'aient pu faire nos vils tyrans pour tromper la multitude. Il n'est pas dans notre dessein de réfuter sérieusement cette souveraineté désastreuse. Mais il est de notre devoir de réclamer ici, au nom de la religion, contre cette doctrine anarchique et antisociale qu'a vomi au milieu de nous la lave révolutionnaire, et de prémunir les fidèles confiés à nos soins contre cette double hérésie et politique et religieuse, également réprouvée et des plus grands docteurs et des plus grands législateurs, non moins contraire au droit naturel qu'au droit divin, et non moins destructive de l'autorité des rois que de l'autorité de Dieu. Fin des guillemets. L'évêque de Troyes, en effet, ne traite pas sérieusement cette question qui avait pourtant paru digne de l'attention de quelques penseurs. Mais il est plus commode de faire d'un principe une hérésie que de l'approfondir par la discussion. Il y a cependant quelques chrétiens en Angleterre, en Amérique, en Hollande, et depuis que l'ordre social est fondé, l'on a vu d'honnêtes gens croire que tous les pouvoirs émanaient des nations, sans lesquelles il n'y aurait point de pouvoir. C'est ainsi qu'en se servant de la religion pour diriger la politique, on est dans le cas de faire chaque jour des complaintes sur l'impiété des Français. Cela veut tout simplement dire qu'il y a en France beaucoup d'amis de la liberté qui sont d'avis qu'il doit exister un pacte entre les nations et les monarques. Il me semble qu'on peut croire en Dieu et penser ainsi. Par une contradiction singulière, ce même évêque, si orthodoxe en politique, cite le fameux passage qui lui a sans doute servi à se justifier à ses propres yeux, quand il était l'aumônier de l'usurpateur. « Toute puissance vient de Dieu, et qui résiste à la puissance résiste à Dieu même. » Guillemets. « Voilà, notre très cher frère, le droit public de la religion, sans lequel personne n'a le droit de commander, ni l'obligation d'obéir. Voilà cette souveraineté première de laquelle découlent toutes les autres, et sans laquelle toutes les autres n'auraient ni base ni sanction. C'est la seule constitution qui soit faite pour tous les lieux comme pour tous les temps, la seule avec laquelle on pourrait se passer de toutes les autres et sans laquelle aucune ne pourrait se soutenir, la seule qui ne peut jamais être sujette à révision, la seule à laquelle aucune faction ne saurait toucher, et contre laquelle aucune rébellion ne saurait prévaloir, contre laquelle enfin ne peuvent rien ni les peuples, ni les rois, ni les maîtres, ni les sujets. Toute puissance vient de Dieu, et qui résiste à la puissance résiste à Dieu même. » Fin des guillemets. Peut-on, en peu de paroles, rassembler plus d'erreurs funestes et de calculs serviles? Ainsi Néron et Robespierre, ainsi Louis XI et Charles IX, les plus sanguinaires des hommes, devraient être obéis si celui qui résiste à la puissance résiste à Dieu même. Les nations ou leurs représentants sont le seul pouvoir qu'il faille accepter de ce respect implicite pour l'autorité. Quand deux parties dans l'État luttent ensemble, comment saisir le moment où l'un des deux devient sacré, c'est-à-dire le plus fort? Ils avaient donc tort, les Français qui n'ont pas quitté le roi pendant 25 ans d'exil. Car certes, dans ce temps, c'était à Bonaparte qu'on ne pouvait contester le droit que Monseigneur l'évêque de Troyes proclame, celui de la puissance. Dans quelles absurdités tombent les écrivains qui veulent mettre en théorie, en dogme, en maxime, leurs intérêts de chaque jour. En vérité, le glaive déprave beaucoup moins que la parole, lorsqu'on en fait un tel usage. On a 100 fois répété que cette phrase de l'Évangile « Toute puissance vient de Dieu » et l'autre « Rendez à César ce qui appartient à César » avait uniquement pour but d'écarter toute discussion politique. Jésus-Christ voulait que la religion qu'il annonçait fût considérée par les Romains comme tout à fait étrangère aux affaires publiques. « Mon règne n'est pas de ce monde, » disait-il. « Tout ce qu'on demande aux ministres du culte, c'est de remplir, à cet égard comme à tous les autres, les intentions de Jésus-Christ. « Établissez, Seigneur, » dit le prophète, « un législateur au-dessus d'eux, afin que les nations sachent qu'elles sont des hommes. » Il ne serait pas mal non plus que les rois sussent qu'ils sont des hommes, et certainement ils doivent l'ignorer, s'ils ne contractent point d'engagement envers la nation qu'ils gouvernent. Quand le prophète prie Dieu d'établir un roi, c'est comme tous les hommes religieux prient Dieu de présider à chacun des événements de cette vie. Mais comment une dynastie est-elle spécialement établie par la Providence? Est-ce la prescription qui est le signe de la mission divine? Les papes ont excommunié, déposé des rois de toute ancienneté. Ils ont exclu Henri IV pour cause de religion. Et des motifs puissants ont déterminé nouvellement un pape à concourir au couronnement de Bonaparte. Ce sera donc au clergé à déclarer, quand il le faudra, que telle dynastie, et non pas telle autre, est choisie par la volonté de Dieu? Mais suivons l'instruction pastorale. Guillemets. Établissons un législateur, c'est-à-dire un roi qui est le législateur par excellence, et sans lequel il ne peut y avoir de loi. Un législateur suprême qui parlera et qui fera des lois en votre nom. Un législateur et non plusieurs, car plus il y en aurait, et moins bien les lois seraient faites. Un législateur avec une autorité sans rivalité, pour qu'il puisse faire le bien sans obstacle. Un législateur qui, soumis lui-même à ses propres lois, ne pourra soumettre personne ni à ses passions, ni à ses caprices. Enfin, un législateur qui, ne faisant que des lois justes, conduira par là même son peuple à la liberté véritable. Fin de guillemets. Un homme qui fera les lois à lui seul n'aura ni passion ni caprice. Un homme entouré de tous les pièges de la royauté sera le législateur unique d'un peuple, et il ne fera que des lois justes. Certes, il n'y a pas d'exemple du contraire. On n'a point vu des rois abuser de leur pouvoir, point de prêtres tels que les cardinaux de Lorraine, Richelieu, Mazarin, Dubois, qui les y aient excités. Et comment cette doctrine est-elle conciliable avec la charte constitutionnelle que le roi lui-même a jurée? Ce roi que la France veut, car l'évêque de Troyes se permet pourtant de le dire, quoique selon lui la France n'ait aucun droit à cet égard, ce roi, qui est établi par le Seigneur, a promis sur serment qu'il y aurait plusieurs législateurs, et non un seul, quoique Monseigneur l'évêque de Troyes prétende que plus il y en aurait, moins les lois seraient bien faites. Ainsi les connaissances acquises par l'administration, ainsi les vœux recueillis dans les provinces par ceux qui y habitent, ainsi la sympathie qui naît des mêmes besoins et des mêmes souffrances, tout cela ne vaut pas les lumières d'un roi tout seul, qui se représente lui-même, pour me servir de l'expression un peu bizarre de M. l'évêque de Troyes. L'on croirait avoir atteint à ce qui, dans ce genre, ne peut être surpassé, si ce qu'on va lire ne méritait encore la préférence. Guillemets. Aussi, notre très cher frère, avons-nous vu ce Sénat de rois, sous le nom de Congrès, consacrer en principe la légitimité des dynasties royales, comme l'égide de leur trône, et le plus sûr garant du bonheur des peuples et de la tranquillité des États. Nous sommes rois, ont-ils dit, parce que nous sommes rois. Ainsi l'exige l'ordre et la stabilité du monde social. Ainsi le veut notre propre sûreté. Ils l'ont dit sans trop s'embarrasser, s'ils n'étaient pas par là en opposition avec les idées dites libérales, et moins encore si le partage qu'ils faisaient des États, qu'ils trouvaient à leur convenance, n'était pas le plus solennel démenti donné au peuple souverain. Fin des guillemets. Ne croirait-on pas que nous venons de citer la satire la plus ironique contre le congrès de Vienne, si l'on ne savait que telle n'a pu être l'intention de l'auteur? Mais quand on est arrivé à ce degré de déraison, l'on ne se doute pas non plus du ridicule, car la folie méthodique est très sérieuse. « Nous sommes rois parce que nous sommes rois », fait-on dire aux souverains de l'Europe. « Je suis celui qui suis », sont les paroles de Jéhovah dans la Bible. Et l'écrivain ecclésiastique se permet d'attribuer au monarque ce qui ne peut convenir qu'à la divinité. « Les rois, dit-il, ne se sont pas embarrassés si le partage des États, qu'ils trouvaient à leur convenance, était d'accord avec les idées dites libérales. Tant pis, en effet, s'ils ont réglé ce partage comme un compte de banquier, donnant des soldes à une certaine quantité d'âmes ou de fractions d'âmes pour se faire une somme ronde de sujets. Tant pis s'ils n'ont consulté que leur convenance, sans songer aux intérêts et aux vœux des nations. Mais les rois repoussent, n'en doutons pas, l'indigne éloge qui leur est ainsi adressé. Ils repoussent de même aussi, sans doute, le blâme que se permet contre eux l'évêque de Troyes, quoique ce blâme renferme une odieuse flatterie sous la forme d'un reproche. Guillemets. Il est vrai qu'on en a vu plusieurs favoriser, au risque d'être en contradiction avec eux-mêmes, ces formes populaires et autres théories nouvelles que leurs ancêtres ne connaissaient pas, et auxquelles, jusqu'à nos jours, leurs propres États avaient été étrangers sans qu'ils s'en fussent plus mal trouvés. Mais nous ne craignons pas de le dire, c'est la maladie de l'Europe, et le symptôme le plus alarmant de sa décadence. C'est par là que la Providence semble l'attaquer pour hâter sa dissolution. Ajoutons à cette manie de refondre les gouvernements et de les appuyer sur des livres, cette tendance des esprits novateurs à faire une fusion de tous les cultes, comme ils veulent en faire une de tous les partis, et à croire que l'autorité des princes acquiert pour elle-même toute la force et l'autorité qu'ils ôtent à la religion, et nous aurons les deux grands dissolvants politiques qui puissent miner les empires et avec lesquels l'Europe, tôt ou tard, doit tomber en lambeaux et en pourriture. Fin des guillemets. Voilà donc le but de toutes ces homélies en faveur du pouvoir absolu. C'est la tolérance religieuse qui doit faire tomber tôt ou tard l'Europe en lambeaux et en pourriture. L'opinion publique est favorable à cette tolérance. Donc, il faut proscrire tout ce qui servirait d'organe à l'opinion. Alors le clergé de la seule religion permise sera riche et puissant. Car d'une part, il se dira l'interprète de ce droit divin par lequel les rois règnent, et de l'autre, les peuples ne pouvant professer que le culte dominant. Il faudra que les ecclésiastiques soient seuls chargés, ainsi qu'ils le demandent, de l'instruction publique, et qu'on leur remette la direction des consciences, qui s'appuie sur l'inquisition, comme le pouvoir arbitraire sur la police. La fraternité de toutes les communions chrétiennes, telle que la Sainte Alliance proposée par l'empereur Alexandre, l'a fait espérer à l'humanité, est déjà condamnée par la censure portée contre la fusion des cultes. Quel ordre social il nous propose, ces partisans du despotisme et de l'intolérance, ces ennemis des Lumières, ces adversaires de l'humanité, quand elle porte le nom de peuple et de nation? Où faudrait-il fuir s'il commandait? Encore quelques mots sur cette instruction pastorale dont le titre est si doux et dont les paroles sont si amères. Guillemets. Hélas, dit l'évêque de Troyes, en s'adressant au roi, des séditieux, pour mieux nous asservir, commencent déjà à nous parler de nos droits, pour nous faire oublier les vôtres. Nous en avons sans doute, sire, ils sont aussi anciens que la monarchie. le droit de vous appartenir comme au chef de la grande famille, et de nous dire vos sujets, puisque ce mot signifie vos enfants. » On ne peut s'empêcher de croire que l'écrivain, homme d'esprit, a souri lui-même quand on a proposé pour unique droit au peuple français celui de se dire les sujets d'un monarque qui disposerait, selon son bon plaisir, de leurs propriétés et de leur vie. Les esclaves d'Alger peuvent se vanter du même genre de droit. Enfin, voici sur quoi repose tout l'échafaudage de sophisme qu'on prescrit comme un article de foi, parce que le raisonnement ne pourrait pas le soutenir. Quel usage du nom de Dieu ! Et comment veut-on qu'une nation à qui l'on dit que c'est là de la religion ne devienne pas incrédule pour son malheur et pour celui du monde ? Notre très cher frère, nous ne cesserons de vous répéter ce que Moïse disait à son peuple. Interrogez vos ancêtres et le Dieu de vos pères, et remontez à la source. Songez que moins on s'écarte des chemins battus, et plus on est en sûreté. Songez enfin que mépriser l'autorité des siècles, c'est mépriser l'autorité de Dieu, puisque c'est Dieu lui-même qui fait l'Antiquité, et que vouloir y renoncer est toujours le plus grand des crimes, quand ce ne serait pas le dernier des malheurs. C'est Dieu qui fait l'Antiquité, sans doute, mais Dieu est aussi l'auteur du présent, dont l'avenir va dépendre. Quelle niaiserie que cette assertion, si elle ne contenait pas un artifice habile. Et le voici. Tous les honnêtes gens sont émus quand on leur parle de leurs ancêtres. Il semble que l'idée de leur père s'unisse toujours à celle du passé. Mais ce sentiment noble et pur conduit-il à rétablir la torture, la roue, l'inquisition, parce que dans les siècles éloignés, de telles abominations étaient l'œuvre des mœurs barbares. Peut-on soutenir ce qui est absurde et criminel parce que l'absurde et le crime ont existé? Nos pères n'ont-ils pas été coupables envers les leurs quand ils ont adopté le christianisme et détruit l'esclavage? Songez que moins on s'écarte des routes battues, plus on est en sûreté, dit Monseigneur l'évêque de Troyes. Mais pour que ces routes soient devenues des routes battues, il a fallu passer de l'Antiquité à des temps plus rapprochés. Et nous voulons maintenant profiter des lumières de nos jours pour que la postérité ait aussi une antiquité qui vienne de nous, mais qu'elle pourra changer à son tour, si la Providence continue à protéger, comme elle l'a fait, les progrès de l'esprit humain dans toutes les directions. Je ne me serais pas arrêté si longtemps à l'écrit de l'évêque de Troyes s'il ne renfermait la quintessence de tout ce qu'on publie chaque jour en France. Le bon sens en réchappera-t-il? Et, ce qui est pis encore, le sentiment religieux, sans lequel les hommes n'ont point d'asile en eux-mêmes, pourra-t-il résister à ce mélange de la politique et de la religion qui porte le caractère évident de l'hypocrisie et de l'égoïsme? Chapitre 12. De l'amour de la liberté. La nécessité des gouvernements libres, c'est-à-dire des monarchies limitées pour les grands États et des républiques indépendantes pour les petits, est tellement évidente qu'on est tenté de croire que personne ne peut se refuser sincèrement à reconnaître cette vérité. Et cependant, quand on rencontre des hommes de bonne foi qui la combattent, on voudrait se rendre compte de leurs motifs. La liberté a trois sortes d'adversaires en France. Les nobles, qui placent l'honneur dans l'obéissance passive, et les nobles plus avisés, mais moins candides, qui croient que leurs intérêts aristocratiques et ceux du pouvoir absolu ne font qu'un. Les hommes que la Révolution française a dégoûtés des idées qu'elle a profanées. Enfin, les bonapartistes, les jacobins, tous les hommes sans conscience politique. Les nobles qui attachent l'honneur à l'obéissance passive confondent tout à fait l'esprit des anciens chevaliers avec celui des courtisans des derniers siècles. Sans doute, les anciens chevaliers mourraient pour leur roi, et ainsi feraient tous les guerriers pour leur chef. Mais ces chevaliers, comme nous l'avons dit, n'étaient nullement les partisans du pouvoir absolu. ils cherchaient eux-mêmes à entourer ce pouvoir de barrière et mettaient leur gloire à défendre une liberté aristocratique, il est vrai, mais enfin une liberté. Quant aux nobles qui sentent que les privilèges de l'aristocratie doivent à présent s'appuyer sur le despotisme, que jadis ils servaient à l'imiter, on peut leur dire, comme dans le roman de Waverley, « Ce qui vous importe, ce n'est pas tant que Jacques Stuart soit roi, mais que Fergus MacIvor soit comte. » L'institution de la pairie accessible au mérite est, pour la noblesse, ce que la constitution anglaise est pour la monarchie. C'est la seule manière de conserver l'une et l'autre, car nous vivons dans un siècle où l'on ne conçoit pas bien comment la minorité, et une si petite minorité, aurait un droit qui ne serait pas pour l'avantage de la majorité. Le sultan de Perse se faisait rendre compte, il y a quelques années, de la constitution anglaise par l'ambassadeur d'Angleterre à sa cour. Après l'avoir écouté, et comme l'on va voir, assez bien compris. « Je conçois, lui dit-il, comment l'ordre de choses que vous me décrivez convient mieux que le gouvernement de Perse à la durée et au bonheur de votre empire. Mais il me semble beaucoup moins favorable aux jouissances du monarque. » C'était très bien poser la question, excepté que même pour le monarque, il vaut mieux être guidé par l'opinion dans la direction des affaires publiques que de courir sans cesse le risque d'être en opposition avec elle. La justice est l'égide de tous et de chacun, mais en sa qualité de justice, cependant, c'est le grand nombre qu'elle doit protéger. Il nous reste à parler de ceux que les malheurs et les crimes de la Révolution de France ont effrayés, et qui fuient d'un extrême à l'autre, comme si le pouvoir arbitraire d'un seul était l'unique préservatif certain contre la démagogie. C'est ainsi qu'ils ont élevé la tyrannie de Bonaparte, et c'est ainsi qu'ils rendraient Louis XVIII despote, si sa haute sagesse ne l'en défendait pas. La tyrannie est une parvenue, et le despotisme un grand seigneur. Mais l'une et l'autre offensent également la raison humaine. Après avoir vu la servilité avec laquelle Bonaparte a été obéi, on a peine à concevoir que ce soit l'esprit républicain que l'on craigne en France. Les lumières et la nature des choses amèneront la liberté en France, mais ce ne sera certainement pas la nation qui se montrera d'elle-même factieuse ni turbulente. Quand depuis tant de siècles, toutes les âmes généreuses ont aimé la liberté, quand les plus grandes actions ont été inspirées par elle, quand l'Antiquité et l'histoire des temps modernes nous offrent tant de prodiges opérés par l'esprit public, quand nous venons de voir ce que peuvent les nations, quand tout ce qu'il y a de penseurs parmi les écrivains a proclamé la liberté, quand on ne peut pas citer un ouvrage politique d'une réputation durable qui ne soit animé par ce sentiment, quand les beaux-arts, la poésie, les chefs-d'œuvre du théâtre destinés à émouvoir le cœur humain exaltent la liberté. Que dire de ces petits hommes à grande fatuité qui vous déclarent avec un accent fade et maniéré, comme tout leur être, qu'il est de bien mauvais goût de s'occuper de politique, qu'après les horreurs dont on a été témoin, personne ne se soucie plus de la liberté, que les élections populaires sont une institution tout à fait grossière, que le peuple choisit toujours mal, et que les gens comme il faut ne sont pas faits pour aller, comme en Angleterre, se mêler avec le peuple. Il est de mauvais goût de s'occuper de politique. Eh, juste ciel, à quoi donc penseront-ils ces jeunes gens élevés sous le régime de Bonaparte, seulement pour aller se battre, sans aucune instruction, sans aucun intérêt pour la littérature et les beaux-arts, puisqu'ils ne peuvent avoir ni une idée nouvelle, ni un jugement sain sur de tels sujets. Au moins ils seraient des hommes, s'ils s'occupaient de leur pays, s'ils se croyaient citoyens, si leur vie était utile de quelque manière. Mais que veulent-ils mettre à la place de la politique qu'ils se donnent les airs de proscrire? Quelques heures passées dans l'antichambre des ministres pour obtenir des places qu'ils ne sont pas en état de remplir, quelques propos dans le salon, au-dessous même de l'esprit des femmes les plus légères auxquelles ils les adressent, quand il se faisait tuer, cela pouvait aller encore, parce qu'il y a toujours de la grandeur dans le courage. Mais dans un pays qui, Dieu merci, sera en paix, ne savoir être qu'une seconde fois chambellan, et ne pouvoir prêter ni lumière, ni dignité à sa patrie, c'est là ce qui est vraiment de mauvais goût. Le temps est passé où les jeunes Français pouvaient donner le ton à tous égards. Ils ont bien encore, il est vrai, la frivolité de jadis, mais ils n'ont plus la grâce qui faisait pardonner cette frivolité même. Après les horreurs dont on a été témoin, disent-ils, personne ne veut plus entendre parler de liberté. Si des caractères sensibles se laissaient aller à une haine involontaire et nerveuse, car on pourrait la nommer ainsi, puisqu'elle tient à de certains souvenirs, à de certaines associations de terreur qu'on ne peut vaincre, on leur dirait, ainsi qu'un poète de nos jours, qu'il ne faut pas forcer la liberté à se poignarder comme Lucrèce, parce qu'elle a été profanée. On leur rappellerait que la Saint-Barthélemy n'a pas fait proscrire le catholicisme. On leur dirait enfin que le sort des vérités ne peut dépendre des hommes qui mettent telle ou telle devise sur leur bannière, et que le bon sens a été donné à chaque individu pour juger des choses en elles-mêmes, et non d'après des circonstances accidentelles. Les coupables, de tout temps, ont tâché de se servir d'un généreux prétexte pour excuser de mauvaises actions. Il n'existe presque pas de crime dans le monde que leurs auteurs n'aient attribué à l'honneur, à la religion ou à la liberté. Il ne s'ensuit pas, je pense, qu'il faille pour cela proscrire tout ce qu'il y a de beau sur la terre. En politique surtout, comme il y a lieu au fanatisme aussi bien qu'à la mauvaise foi, au dévouement aussi bien qu'à l'intérêt personnel, on est sujet à des erreurs funestes quand on n'a pas une certaine force d'esprit et d'âme. Si le lendemain de la mort de Charles Ier, un Anglais, maudissant avec raison ce forfait, eût demandé au ciel qu'il n'y eût jamais de liberté en Angleterre, certainement on aurait pu s'intéresser à ce mouvement d'un bon cœur qui, dans son émotion, confondait tous les prétextes d'un grand crime avec le crime lui-même, et aurait proscrit, s'il l'avait pu, jusqu'au soleil, qui s'était levé ce jour-là comme de coutume. Mais si cette prière irréfléchie avait été exaucée, l'Angleterre ne servirait pas d'exemple au monde aujourd'hui. La monarchie universelle de Bonaparte pèserait sur l'Europe, car l'Europe eût été hors d'état de s'affranchir sans le secours de cette nation libre. De tels arguments et bien d'autres pourraient être adressés à des personnes dont les préjugés mêmes méritent des égards parce qu'ils naissent des affections du cœur. Mais que dire à ceux qui traitent de jacobins les amis de la liberté, quand eux-mêmes ont servi d'instrument au pouvoir impérial? Nous y étions forcés, disent-ils. Ah ! J'en connais qui pourraient aussi parler de cette contrainte, et qui cependant y ont échappé. Mais puisque vous vous y êtes laissés forcés, trouvez bon que l'on veuille vous donner une constitution libre, où l'empire de la loi soit tel qu'on n'exige rien de mal de vous, car vous êtes en danger, ce me semble, de céder beaucoup aux circonstances. Ils pourraient plutôt, ceux que la nature a fait résistants, ne pas redouter le despotisme. Mais vous, qui l'a si bien courbé, souhaitez donc que dans aucun temps, sous aucun prince, sous aucune forme, il ne puisse jamais vous atteindre. Les épicuriens de nos jours voudraient que les lumières améliorassent l'existence physique, sans exciter le développement intellectuel. Ils voudraient que le tiers-État eût travaillé à rendre la vie sociale plus douce et plus facile, sans vouloir profiter des avantages qu'il a conquis pour tous. On savait vivre durement autrefois, et les rapports de la société étaient aussi beaucoup plus simples et plus fixes. Mais aujourd'hui que le commerce a tout multiplié, si vous ne donnez pas de motif d'émulation au talent, c'est le goût de l'argent qui prendra sa place. Vous ne relèverez pas les châteaux forts, vous ne ressusciterez pas les princesses qui filaient elles-mêmes les vêtements des guerriers. Vous ne recommencerez pas même le règne de Louis XIV. Le temps actuel n'admet plus un genre de gravité et de respect qui donnait alors tant d'ascendant à cette cour. mais vous aurez de la corruption sans esprit. Ce qui est le dernier degré où l'espèce humaine puisse tomber, ce n'est donc pas entre les Lumières et l'antique féodalité qu'il faut choisir, mais entre le désir de se distinguer et l'avidité de s'enrichir. Examinez les adversaires de la liberté dans tous les pays. Vous trouverez bien parmi eux quelques transfuges du camp des gens d'esprit. Mais, en général, vous verrez que les ennemis de la liberté sont ceux des connaissances et des lumières. Ils sont fiers de ce qui leur manque en ce genre, et l'on doit convenir que ce triomphe négatif est facile à mériter. On a trouvé le secret de présenter les amis de la liberté comme des ennemis de la religion. Il y a deux prétextes à la singulière injustice qui voudrait interdire au plus noble sentiment de cette terre l'alliance avec le ciel. Le premier, c'est la révolution. Comme elle s'est faite au nom de la philosophie, on en a conclu qu'il fallait être athée pour aimer la liberté. Certes, ce n'est que parce que les Français n'ont pas uni la religion à la liberté que leur révolution a sitôt dévié de sa direction primitive. Il se pouvait que certains dogmes de l'Église catholique ne s'accordassent pas avec les principes de la liberté. L'obéissance passive au pape était aussi peu soutenable que l'obéissance passive au roi, mais le christianisme a véritablement apporté la liberté sur cette terre. La justice envers les opprimés, le respect pour les malheureux, enfin l'égalité devant Dieu, dont l'égalité devant la loi n'est qu'une image imparfaite. C'est par une confusion volontaire chez quelques-uns, aveugle chez quelques autres, qu'on a voulu faire considérer les privilèges de la noblesse et le pouvoir absolu du trône comme des dogmes de la religion. Les formes de l'organisation sociale ne peuvent toucher à la religion que par leur influence sur le maintien de la justice envers tous et de la morale de chacun. Le reste appartient à la science de ce monde. Il est temps que 25 années, dont 15 appartiennent au despotisme militaire, ne se placent plus comme un fantôme entre l'histoire et nous, et ne nous privent plus de toutes les leçons et de tous les exemples qu'elle nous offre. N'y aurait-il plus d'Aristide, de Phocion, d'Épaminondas en Grèce, de Régulus, de Caton, de Brutus à Rome, de Tell en Suisse, d'Egmond, de Nassau en Hollande, de Sydney, de Russell en Angleterre, parce qu'un pays gouverné longtemps par le pouvoir arbitraire s'est vu livré pendant une révolution aux hommes que l'arbitraire même avait pervertis. Qu'y a-t-il de si extraordinaire dans un tel événement qu'ils doivent changer le cours des astres, c'est-à-dire faire reculer la vérité qui s'avançait avec l'histoire pour éclairer le genre humain? Et par quel sentiment public serions-nous désormais émus si nous repoussions l'amour de la liberté? Les vieux préjugés n'agissent plus sur les hommes que par calcul. Ils ne sont soutenus que par ceux qui ont un intérêt personnel à les défendre. Qui veut en France le pouvoir absolu par amour pur, c'est-à-dire pour lui-même? Informez-vous de la situation personnelle de chacun de ses défenseurs, et vous connaîtrez bien vite les motifs de leur doctrine. Sur quoi donc se fonderait la fraternité des associations humaines si quelque enthousiasme ne se développait pas dans les cœurs? Qui serait fier d'être français si l'on avait vu la liberté détruite par la tyrannie brisée par les étrangers, et que les lauriers de la guerre ne fussent pas au moins honorés par la conquête de la liberté? Il ne s'agirait plus que de voir lutter l'un contre l'autre l'égoïsme des privilégiés par la naissance et l'égoïsme des privilégiés par les événements. Mais la France, où serait-elle? Qui pourrait se vanter de l'avoir servie, puisque rien ne resterait dans les cœurs, ni des temps passés, ni de la réforme nouvelle? La liberté! Répétons son nom avec d'autant plus de force que les hommes qui devraient au moins le prononcer comme excuse l'éloignent par flatterie. Répétons-le sans crainte de blesser aucune puissance respectable. Car tout ce que nous aimons, tout ce que nous honorons, y est compris. Rien que la liberté ne peut remuer l'âme dans les rapports de l'ordre social. Les réunions d'hommes ne seraient que des associations de commerce ou d'agriculture si la vie du patriotisme n'excitait pas les individus à se sacrifier à leurs semblables. La chevalerie était une confrérie guerrière qui satisfaisait aux besoins de dévouement qu'éprouvent tous les cœurs généreux. Les nobles étaient des compagnons d'armes qu'un honneur et un devoir réunissaient. Mais depuis que les progrès de l'esprit humain ont créé les nations, c'est-à-dire depuis que tous les hommes participent de quelque manière aux mêmes avantages, que ferait-on de l'espèce humaine sans le sentiment de la liberté ? Pourquoi le patriotisme français commencerait-il à telle frontière et s'arrêterait-il à telle autre, s'il n'y avait pas dans cette enceinte des espérances, des jouissances, une émulation, une sécurité qui font aimer son pays natal par l'âme autant que par l'habitude? Pourquoi le nom de France causerait-il une invincible émotion s'il n'y avait pas d'autre lien entre les habitants de cette belle contrée que les privilèges des uns et l'asservissement des autres? Partout, vous rencontrez du respect pour la nature humaine, de l'affection pour ses semblables, et cette énergie d'indépendance qui sait résister à tout sur la terre et ne se prosterner que devant Dieu, là où vous voyez l'homme image de son Créateur, là vous sentez au fond de l'âme un attendrissement si intime qu'il ne peut vous tromper sur la vérité. Et vous, nobles Français, pour qui l'honneur était la liberté, vous qui, par une longue transmission d'exploits et de grandeur, deviez vous considérer comme l'élite de l'espèce humaine, souffrez que la nation s'élève jusqu'à vous. Elle a aussi maintenant les droits de conquête, et tout Français, aujourd'hui, peut se dire gentilhomme, si tout gentilhomme ne veut pas se dire citoyen. C'est une chose remarquable, en effet, qu'à une certaine profondeur de pensée, parmi tous les hommes, il n'y a pas un ennemi de la liberté. De la même manière que le célèbre Humboldt a tracé sur les montagnes du Nouveau Monde les différents degrés d'élévation qui permettent le développement de telle ou telle plante, on pourrait dire d'avance quelle étendue, quelle hauteur d'esprit fait concevoir les grands intérêts de l'humanité dans leur ensemble et dans leur vérité. L'évidence de ces opinions est telle que jamais ceux qui les ont admises ne pourront y renoncer. Et, d'un bout du monde à l'autre, les amis de la liberté communiquent par les lumières, comme les hommes religieux par les sentiments, ou plutôt les lumières et les sentiments se réunissent dans l'amour de la liberté, comme dans celui de l'être suprême. S'agit-il de l'abolition de la traite des nègres, de la liberté de la presse, de la tolérance religieuse? Jefferson pense comme Lafayette, Lafayette comme Wilberforce, et ceux qui ne sont plus comptent aussi dans la Sainte Ligue. Est-ce donc par calcul, est-ce donc par de mauvais motifs que des hommes si supérieurs, dans des situations et des pays si divers, sont tellement en harmonie par leurs opinions politiques? Sans doute, il faut des lumières pour s'élever au-dessus des préjugés. Mais c'est dans l'âme aussi que les principes de la liberté sont fondés. Ils font battre le cœur, comme l'amour et l'amitié. Ils viennent de la nature, ils ennoblissent le caractère. Tout un ordre de vertus, aussi bien que d'idées, semble former cette chaîne d'or décrite par Homère, qui, en rattachant l'homme au ciel, l'affranchit de tous les fers de la tyrannie. Fin.